Aujourd'hui, il est question, c'est très différent, d'un chrétien fidèle à l'Église, et beaucoup de gens s'imaginent qu'il ne l'a pas été, c'est René Descartes, un très grand philosophe, un écrivain qui a laissé des textes très importants, et qui a une influence qui était l'objet d'appréciations plus ou moins discutées, et non pas discutables à mon avis. Et de toute façon, ça arrive à tous les philosophes ou tous ceux qui pensent ou tous ceux qui énoncent des idées, eh bien, les gens disent « ah oui » ou « ah non ». Hein. Et on ne peut pas contester en tous les cas que la personne de René Descartes soit immense, hein, étendue, profonde. C'est Hegel, le grand Hegel, qui disait que René Descartes est en réalité le véritable promoteur de la philosophie moderne, en tant qu'elle érige en principe la pensée, l'action de cet homme sur son siècle et sur les temps nouveaux ne saurait être exagérée, c'est un héros. Hein? C'est pas peu dire. Ce sera l'an prochain le 350e anniversaire de sa mort, qui sera sans doute célébré un peu partout. Alors vous allez en entendre parler, vous allez commencer à en entendre parler bientôt de cet homme étonnant. Quand on pense à René Descartes, on pense tout de suite en latin à son cogito, c'est-à-dire tous les jeunes qui ont fait des études connaissent ça parce qu'on apprend ça au collège, à l'école, même encore aujourd'hui. Je pense donc je suis. C'est vrai que des fois, dans des états un peu rêveurs, on peut se demander si on existe vraiment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et on se dit, mais si je pense donc que je suis, et je suis une chose pensante, comme disait Descartes. Et on voit que là, Descartes passe tout de suite de l'idéalisme au réalisme spirituel. C'est ça qui l'intéresse, lui. Et il en conclut que je suis une chose dont toute la nature n'est que de penser. En somme, de penser à Dieu, il va le dire, et aux autres, et de prier. On trouve chez Descartes, à son plus haut degré, on peut dire, cette soif de connaître. Une soif de connaître est extraordinaire, hein, que les découvertes de la Renaissance qui l'avait précédée avaient avivé les esprits. Hein. Il a vécu il y a longtemps, comme je vous ai dit, ça va être le 350e anniversaire de sa mort bientôt. Racontant ses années de jeunesse, hein, il raconte ça en particulier dans le discours de la méthode. Souvent, les gens disent son ouvrage principal, dont on parle beaucoup, le discours de la méthode, ça peut être très difficile à lire. C'est pas très long à lire, 90 pages, petites pages, et puis, si on s'absorbe bien, c'est comme une autobiographie. Il commet quelques erreurs dans sa propre autobiographie, mais c'est pas bien grave. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il dit, j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux, pour voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette vie. C'est un très beau programme. C'est le programme qu'on devrait tous avoir, il me semble. Hein? Cette disposition ne l'a jamais quitté. Il estime aucune jouissance supérieure à celle qu'on peut savourer ou goûter dans la contemplation du vrai. Qui, dit-il, dans ce monde, est presque la seule félicité, le seul bonheur qui ne vienne troubler aucune douleur. C'est pour ça que les mystiques souffrent, des gens qui sont paralysés sur leur lit, qui contemplent le vrai, c'est-à-dire qui contemplent Jésus, qui est la vérité, ou Dieu lui-même, Jésus étant Dieu d'ailleurs, deuxième personne de la Trinité, bien, ils sont dans une félicité que ne vienne troubler aucune douleur, dit Descartes. Hein. Épris de lumière, donc, ce Descartes, épris de lumière et d'ordre, eh bien, il rêve de résoudre les faits de l'univers entier. En une suite, là, bien agencée, bien liée, là, de notions claires et distinctes. C'est un philosophe, c'est un penseur. Hein. Puis il se flatte de réaliser ce rêve. Mais pour venir à bout d'un tel projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben, il doit ménager son temps. Hein. Alors, il va vivre un peu comme un ermite. Il défend jalousement sa liberté. Il cherche la solitude, il change souvent de résidence pour égarer les gens qui courent après pour lui poser toutes sortes de questions, puis l'admirer, puis ça l'ennuie. Le monde l'ennuie, la vérité l'intéresse. Il perd pas des yeux l'utilité pratique de ses recherches. Quand on recherche Dieu, quand on part à la recherche de Dieu, puis qu'on veut se laisser trouver par lui surtout, je crois qu'il faut couper bien des ponts. Il faut aimer, se rendre service, etc. Mais il faut pas se laisser déranger par des mondanités inutiles, les futilités. Et sacrifier la prière, et sacrifier la lecture spirituelle, et sacrifier la contemplation. Il faut garder certaines bases dans nos journées. Alors il les tient pour l'accomplissement d'un devoir social, ça, lui. Car c'est un devoir social que de prier, c'est un devoir social que de savoir être seul. Oui, ça peut sembler contradictoire, parce qu'il estime que chaque homme est obligé de procurer autant qu'il est en lui le bien des autres, et dit-il que c'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne. Puis pour être utile, il faut avoir Dieu avec soi, je crois, ou à moins avoir une réflexion profonde dans la mesure de nos moyens. Quand on sait fort bien qu'il a vécu Descartes et qu'il est mort en bon chrétien, on peut conclure que avec l'un de ses interprètes, le Jacques Chevalier, qui a écrit des choses admirables sur Descartes, eh bien, qu'il est, Descartes, à tout prendre, l'un des plus nobles représentants du génie spirituel de son temps. Dans un petit ouvrage publié aux Presses universitaires de France, il y a une quarantaine d'années, Descartes, sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie. C'est un livre que beaucoup d'étudiants en philosophie ont. Moi, j'ai fait une licence en philosophie, alors j'essaie évidemment. C'est d'André Cresson, et son introduction me semble la plus intéressante de toutes celles que j'ai lues. J'en ai lu. Il raconte que René Descartes est né le 31 mars 1596, donc il y a plus de 400 ans. À La Haye. La Haye? Non, pas La Haye en Hollande. Non, La Haye en Touraine. Oui, d'où nos ancêtres les plus spirituels viennent, sont venus au XVIIe siècle. Ça s'appelle aujourd'hui La Haye Descartes. J'y suis allé d'ailleurs, dans l'Indre-et-Loire. C'est une petite ville située entre Loches et Châtellerault. Disons pas tellement, dans la région de Tours, quoi. Et sa maison est conservée, j'ai visité, c'est très intéressant, hein, parce que c'est pas jeune cette maison, et c'est très beau. On peut y acheter d'ailleurs une très belle médaille, grande médaille, vous savez, qu'on met sur une table de Descartes. J'en ai rapporté une en souvenir. Il est baptisé le 3 avril, donc à peine quelques jours après sa naissance, en 1596, en l'église Saint-Georges, qui existe encore aussi. Alors c'est à voir. Ses parents ont eu trois enfants avant lui. Pierre, en 1589, donc 7 ans avant, à peu près. Jeanne, entre 1590 et 95, puis un autre fils qui est mort en bas âge. D'ailleurs, sa mère meurt, puisqu'il écrit dans le journal de la méthode, dans le discours de la méthode, pardon, qui est une sorte, je vous rappelle, d'autobiographie, il écrit, elle est morte peu de jours après sa naissance, à lui, d'un mal de poumon causé par quelques déplaisirs. Ce qui est pas exact. On trouve quelques inexactitudes comme ça dans les détails qu'il donne lui-même sur sa vie. Voici la vérité, sa mère est morte en 1597, quelques jours après la naissance d'un autre enfant. J'avais, dit-il, hérité d'elle une toux sèche et une couleur pâle que j'ai gardée jusqu'à l'âge de 20 ans et qui faisait que tous les médecins qui m'ont vu avant ce temps me condamnaient à mourir jeune. Il est mort relativement jeune, mais pas si jeune. Heureusement, il a eu le temps de réfléchir et de nous laisser une œuvre importante. René Descartes est donc élevé dans la maison familiale par une nourrice à laquelle il a toujours gardé une grande affection. Ça, il était reconnaissant. Comme compagne de jeu, c'est curieux, ça, il a une petite fille un peu louche, dit-il, et qu'il aime si bien que, et c'est trouble un peu, il dit longtemps après, en voyant des personnes louches, je me sentais, dit-il, plus enclin à les aimer qu'à en aimer d'autres pour cela seul qu'elles avaient ce défaut. Son père se remarie avec une demoiselle Morin. Bien oui, une demoiselle Morin. Il a avec elle 4 enfants. Alors, M. Descartes semble avoir reconnu de bonne heure la haute intelligence de son fils René. Il l'appelle son philosophe. Mais leurs caractères ne paraissent pas s'être bien accordés, car plus tard, il avoue que, c'est ce qu'il dit, de tous ses enfants, il n'a eu de mécontentement que de la part de lui seul, René Descartes. Mais il rêvait que son fils fasse autre chose que ce qu'il a fait. Ah, les espoirs que mettent les parents dans leurs enfants sont souvent déçus. Son frère et sa sœur, ainsi que ses demi-frères, ne lui ont pas montré un bien grand amour. Il aurait des difficultés avec son frère Pierre pour une question d'héritage. René Descartes semble bien qu'il n'a pas trouvé auprès de ses proches parents l'affection puis la tendresse qu'il était en droit d'avoir. Ça l'a fait beaucoup souffrir. C'est peut-être cela qui explique la vie étrange de René Descartes. Il a beaucoup voyagé, s'est déplacé énormément, dans différents pays, loin des siens, loin de son pays, la Touraine. Et aussi, il avait une sympathie ardente. Il va témoigner parfois des étrangers que le hasard met sur sa route. À 8 ans, donc, Descartes entre au collège de la Flèche, le fameux collège de la Flèche que le roi Henri IV vient de fonder. Alors, le voilà chez les jésuites, auxquels sont confiés les jeunes nobles par le roi Henri IV. René Descartes est un élève modèle, tout au moins pendant ses premières années. Quand il passe à l'étude des lettres, à celle de la logique, de la physique et de la métaphysique, il est rapidement déçu. Pourquoi? Parce que c'est les façons d'enseigner ça, ça lui déplaît, ça l'ennuie. Pour lui, c'est l'obscurité des doctrines et les opinions divergentes qu'on expose devant lui, ce jeune homme qui est très brillant, ça l'ennuie. L'enseignement consiste alors dans des exposés puis des commentaires des œuvres d'Aristote. Puis il raconte, la dispute était le grand, presque l'unique exercice en philosophie. On disputait en classe, en promenade, en récréation, en tout lieu, en tout temps, partout. Puis, de cet art de la dispute, fait remarquer Léon Brunswick, ne pouvait se dégager qu'une leçon de scepticisme, de doute. Et si Descartes est amené à faire table rase du passé scolastique, ou disons Aristote, saint Thomas, etc., c'est que, dit-il, ce passé perdu dans les controverses sans issue, du réalisme puis du nominalisme, faisait table rase de lui-même. Et c'est comme ça que Descartes, dès cette époque, s'est mis en état de défense contre la philosophie, lui qui va devenir un très grand philosophe. Et par ailleurs, il se livre avec un zèle extrême à l'étude des mathématiques. Il dira combien il s'étonnait qu'on n'ait rien construit sur elles, sur les mathématiques de plus général, puis qu'on se soit borné à leur application à quelques techniques, parce que Descartes s'intéresse aussi aux doctrines secrètes, ou curieuses, si à la mode à cette époque, grâce à la faveur de Marie de Médicis. Il a probablement connu les temps des Rose-Croix. Et puis, il écrit, pour les mauvaises doctrines, c'est ce qu'il écrit dans le discours de la méthode, vous pouvez relire ça, pour les mauvaises doctrines, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient. Les mauvaises doctrines, on en voit partout. Rentrer dans une librairie aujourd'hui à Montréal, ou à Sherbrooke, ou partout, c'est plein de livres sur les mauvaises doctrines, à mon avis, en tous les cas. Il dit, je pensais déjà connaître assez ce qu'elles valaient pour n'être plus sujet à être trompé ni par les promesses d'un alchimiste, ni par les prédictions d'un astrologue, ni par les impostures d'un magicien, ni par les artifices ou la vanterie d'aucun de ceux qui font profession de savoir plus qu'ils ne savent. Alors, il rejette toutes les ouvrages et les pensées qui ne sont pas sérieuses. Alors, en 1612, René Descartes a 16 ans. Il quitte le collège, puis il a appris parfaitement le latin, les mathématiques, mais pour le reste, comme il dit, je le cite, « Je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs. » C'est ça, arrive souvent à 16-17 ans, hein? « Je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs qu'il me semblait n'avoir fait aucun profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. » Combien de nos jeunes sont pris dans le même problème, hein? Il va cependant faire des études de droit à Poitiers. Il est reçu bachelier puis licencié, avec éloge. En même temps, René Descartes fait un peu de médecine, et sur les indications de son père, qui veut lui voir embrasser, comme je vous disais, la carrière militaire, et qui tient à lui faire connaître d'abord le grand monde, n'est-ce pas, son père espère toujours des choses. Mais il vient à Paris, à 19 ans, en 1616, où, dit-il, il fréquente moins le grand monde que le monde où l'on s'amuse. Alors, au bout de quelques mois, un garçon aussi intelligent et sérieux se rend bien compte que la vie de plaisir qu'il mène est un ennui éperdu. C'est épouvantable. Ça l'ennuie. Il a retrouvé un ancien camarade de collège. Pardon. Martin Mersenne, le futur père Mersenne, très illustre, qui est entré dans l'ordre des Minimes, l'ordre fondé par Saint François de Paule. Il renoue avec lui les amitiés de jeunesse. Le père Mersenne sera pour René Descartes l'ami le plus fidèle. C'est curieux, hein? Son meilleur ami, c'est le père Mersenne. Grand mathématicien, lui aussi. Il fait la connaissance de Midorge, un des premiers médecins de France. Il le voit très souvent. Ils ont des entretiens qui sont très importants sur l'esprit de Descartes. Alors, il a donc des influences sérieuses et il fuit les gens qui n'ont rien à dire. Il a donc maintenant 20 ans. Il s'engage dans l'armée du prince Maurice de Nassau, son père, il insiste, pour aller combattre. Mais la paix est signée finalement, et ce sera pour Descartes la vie de soldat, la vie de garnison, ça l'excède, ça aussi. Bien vite, ça l'ennuie, la platitude des conversations doit être épouvantable. Alors, on le retrouve à Breda, dans le nord du Brabant, aux Pays-Bas. À Breda. Un hasard le fait s'arrêter un jour devant une affiche dans laquelle on propose, suivant la coutume, un problème à résoudre. Mais le texte est en flamand, il ne peut pas le comprendre. Alors, Descartes demande à un lecteur de bien vouloir lui traduire la question, puis son interlocuteur le fait volontiers, ils sont très gentils, et lui demande s'il espère trouver la solution. Ça m'est arrivé dans ces pays-là de demander des traductions, mais les gens étaient très gentils, ils comprenaient très bien le français dans le temps, il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est en anglais que tout ça se déroule, hein? Les temps ont changé. Et Descartes promet donc de rapporter la solution le lendemain, ce qu'il fait. Et cet interlocuteur, c'est un jeune médecin qui a pris ses grades à l'université de Caen, en France, en Normandie, d'un esprit très ouvert. Il a les mêmes préoccupations, les mêmes curiosités scientifiques que Descartes. Et aussi Descartes et Isaac Bickman deviennent rapidement des amis intimes. Et Descartes lui exprime sa reconnaissance. Écoutez bien ça, de l'avoir tiré de l'oisiveté de la vie de garnison où il niaisait, en lui faisant hommage de son premier ouvrage, un compendium musici, un ouvrage sur la musique. Et il lui écrira, et c'est très beau cette lettre, « J'en reçois des semblables parfois, et je remercie les gens qui m'écrivent de belles lettres, qui me soutiennent et me donnent le courage de continuer. Vous seul, en vérité, m'avez réveillé de mon oisiveté. Vous avez évoqué en moi une science presque effacée de ma mémoire, et vous avez, écoutez ça, et vous avez ramené vers des occupations sérieuses et meilleures, un esprit qui s'en était écarté. Si donc, il sort de moi quelque chose qui ne soit pas méprisable, vous avez le droit de le réclamer, moi-même, je ne manquerai pas de vous en faire part, soit pour que vous en profitiez, soit pour que vous le corrigiez. C'est ce que j'essaie de faire en ces émissions, et c'est ce que j'essaie de faire en général Radio Ville-Marie, ramener vers des occupations sérieuses et meilleures, des esprits qui s'en étaient écartés, comme dit René Descartes. Au printemps de 1619, Descartes, à 23 ans, pour un motif qui demeure inconnu, quitte la Hollande, il voyage au Danemark, en Allemagne, où il assiste à Francfort, imaginé au couronnement de l'empereur Ferdinand, des cérémonies fabuleuses. Il se rend en Pologne, en Moravie, puis il prend du service dans l'armée de Maximilien de Bavière, catholique, qui va se battre contre le roi de Bohême. Triste. L'hiver venu, Descartes prend ses quartiers, là, dans un petit village. Bon, probablement aux environs de la ville d'Ulm. D'Ulm, c'est une ville industrielle qui donne sur le Danube. Hein. Il ne trouve aucune conversation qui le divertisse. Il s'ennuie, là. Il n'a d'ailleurs, par bonheur, aucun soin ni passion qui le trouble. Il vit déjà dans une espèce de paix que l'on n'atteint qu'à 80 ans, là. Il est tout jeune, pourtant. Ces expressions même, aucun soin ni passion qui me trouble. Il travaille dans une chambre surchauffée. Il y a un célèbre poêle là, qui chauffe. Et sans, il y en a question dans son autobiographie, mais j'ai pas le temps de vous en parler. Mais c'est important parce que ça, il a tout le loisir là de mûrir sa pensée, parce qu'il ne gèle pas. Hein. Et c'est là que le 10 novembre 1619, il découvre les fondements, écrit-il, d'une science admirable. C'est comme la nuit de Pascal, hein, une nuit d'émerveillement. Il désigne par là une méthode universelle capable d'introduire l'unité dans les sciences. Il veut unifier les sciences. Et comme l'écrit son biographe Bayet, il se fatigua de telle sorte qu'il tomba dans une espèce d'enthousiasme qui disposa de telle manière son esprit déjà abattu qu'il le mit en état de recevoir les impressions des songes et des visions. Alors, des songes, des visions? Eh bien, Descartes nous a laissé le récit de 3 songes qu'il a fait. Écoutez, ça, c'est pendant l'un de ces 3 songes qu'il croit ouvrir un recueil de poésie latine étudié au collège et qu'il lit un vers d'Ozone. Ozone, ben, c'est Decimus Magnus Ozone, là, qui est mort en 394. C'était un Gaulois. Il était né à Bordeaux. Il était précepteur de l'empereur Gratien. Ozone, on peut lire ça, on disait ça autrefois. Alors, dans ce vers, il voit le signe de sa vocation philosophique. Il est tellement impressionné, écoutez bien, qu'il se met en prière. Il fait un vœu de pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, en Italie. C'est la maison de Lorette. C'est la maison qui aurait été transportée par des anges. La maison de la Sainte Famille, quoi. Pour recommander cette affaire, dit-il, qu'il jugeait la plus importante de sa vie à la Sainte Vierge, écrit-il. Et ainsi que le remarque Léon Brunschvig, bien, comme pour Socrate, c'était à une secousse mystique, à un ébranlement de l'être jusque dans ses racines, qu'il y ait un changement de direction dans la marche de l'humanité, préludant au règne de la raison véritable que Descartes va amener. En 1620, Descartes prend part à la campagne de Bohême, là, la guerre, assiste probablement à la bataille de la Montagne Blanche près de Prague, là. Et puis, c'est là que Prague va perdre sa liberté, la liberté du pays, de la Tchéquie. Pendant l'année suivante, il quitte l'armée, puis il reprend ses voyages. Il est décidé à ne chercher dorénavant d'autres sciences que celles qu'il pourrait trouver en lui-même, ou bien dans le grand livre du monde, car c'est ce qu'il écrit, car il me semble que je pourrais rencontrer beaucoup de vérités dans les raisonnements que chacun fait, touchant les affaires qui lui importent, et dont l'événement le doit punir bientôt après, s'il a mal jugé. Descartes traverse donc l'Allemagne, passe en Hollande et s'arrête à La Haye. C'est là que pendant l'hiver 1621-1622, il rencontre la fille de l'électeur palatin Frédéric V, la princesse Élisabeth, qui va devenir une grande amie. Il va entretenir plus tard une correspondance extrêmement intéressante. C'est curieux, une princesse brillante, intelligente. Avec Descartes, ils échangent des lettres sublimes. Et Descartes part au printemps de 1622, à 26 ans, pour la Bretagne et le Poitou, en France, évidemment. Puis il vérifie ses affaires pour s'assurer qu'il aura assez d'argent pour se permettre de mener à bonne fin, l'œuvre qu'il veut entreprendre, puis poursuit ses voyages. Il va en Suisse, en Italie, à Venise. Il assiste même au mariage du doge avec la mère Adriatique. Hein, c'est une étrange cérémonie, paraît-il. À Rome, il est présent même au fait du jubilé du pape Urbain VIII. Il est chanceux, hein? Il va à Lorette accomplir son vœu à la Sainte Vierge. Puis il revient en France, où il semble avoir voulu se fixer, mais il essaie d'acheter une charge de lieutenant général, mais c'est trop cher. Il s'installe à Paris. Il reste là jusqu'en 1628. Il s'occupe de mathématiques, mais Paris n'est pas la ville où il peut travailler. Et là, il va lui arriver toutes sortes d'événements, de choses extraordinaires, et le cardinal de Bérulle, fondateur de l'oratoire, lui fait promettre de poursuivre ses recherches philosophiques. Il a l'appui du cardinal de Bérulle, fondateur de l'oratoire. Aujourd'hui, il est question de René Descartes, un grand philosophe, beaucoup plus chrétien qu'on pense, quand vous voyez que c'est chez le nonce du pape, l'ambassadeur du pape à Paris, qu'il argumente si brillamment en exposant les principes de sa métaphysique, ou si vous voulez, de sa philosophie, de sa façon de penser, et bien que le cardinal de Bérulle, fondateur de l'oratoire, lui fait promettre là, de poursuivre ses recherches philosophiques, vous voyez qu'il a l'appui de personnes extrêmement importantes. C'était un saint homme, le cardinal de Bérulle. Mais il essaie de s'isoler. Son biographe Bayet rapporte qu'il logeait chez un ami de son père, qui s'appelait Levasseur d'Étiole. Il est tellement fatigué, importuné par les visites, qu'il quitte comme ça la maison sans prévenir son hôte, ni sa femme, la femme de son hôte, puis il se retire dans un quartier où il n'est reconnu que par un petit nombre d'amis qui connaissent son secret, son adresse. Monsieur Levasseur finit par trouver son adresse, lui. Alors il se glisse contre la porte, il se met à regarder par le trou de la serrure, puis il aperçoit... Écoutez bien, René, Descartes dans son lit. Il vivait presque toujours couché, lui. Les fenêtres de la chambre ouvertes, les rideaux levés, et le guéridon, là, la table ronde, là, avec quelques papiers près du chevet de son lit. Il a écrit Descartes, cet homme, M. Levasseur, la patience de le considérer pendant un temps considérable. Il voit qu'il se lève à demi-corps de temps en temps pour écrire, puis se recouche ensuite pour méditer. Descartes écrit l'alternative de ses postures dure près d'une demi-heure à la vue de M. Levasseur, qui s'étonne. Alors ensuite, M. Levasseur frappe et rentre, et il lui fait quelques reproches de la part de Mme Levasseur, qui s'est cru méprisée dans la manière dont il avait abandonné sa maison. Alors Descartes fait à Mme Levasseur toute la satisfaction qu'elle peut attendre, non d'un philosophe, mais d'un galant homme, qui sait l'art de vivre avec le monde, écrit Descartes. Bon, afin de pouvoir travailler librement, Descartes se décide à quitter Paris finalement, où cependant il a commencé à rédiger un ouvrage important, et il se retire en Hollande. Et imaginez, il va demeurer en Hollande, chez les protestants, pendant 20 ans, jusqu'en 1649, quoi. Presque sans quitter ce pays, où, dit-il, parmi la foule d'un grand peuple fort actif et plus soigneux de ses propres affaires que curieux de celles d'autrui, sans manquer d'aucune des commodités qui sont dans les villes les plus fréquentées, il peut vivre aussi solitaire et retiré que dans les déserts les plus écartés. Hein. C'est une âme de moine, c'est une âme de chartreux que ce Descartes. Hein. C'est ce qu'il écrit. C'est moi qui ajoute qu'il y a une âme de chartreux. Il passe les premiers mois son séjour près de l'université de Franeker, une université frisonne, où l'on dit la messe en sûreté, dit Descartes. Parce que c'est un pays protestant où les catholiques sont pas très très bien vus, hein, où l'on dit la messe en sûreté. Et il passe son temps à rédiger un petit traité de métaphysique, recherche de Dieu, etc. Et dès octobre 1629, il vient d'arriver en Hollande, il écrit à son ami le père Mersenne, le minime, là, mathématicien, savant, qui leur a achevé dans 3 ans l'œuvre qu'il entreprend, qui leur a donné un monde avec un M majuscule au monde. Ce sera le traité du monde, ou de la lumière, qu'il termine en 1633, suivant sa promesse. Il allait le faire paraître... Lorsqu'est arrivé quelque chose de terrible, c'est la nouvelle de la condamnation de Galilée par le Saint-Office à Rome. Alors Descartes, pour ne pas attirer sur lui les foudres de l'Église qu'il respecte, eh bien, il préfère ne pas publier son traité, car lui aussi démontrait le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et comme il l'écrit au père Mersenne, ce mouvement est tellement lié avec toutes les parties de mon traité que je ne l'en serai détaché sans rendre le reste tout défectueux. Mais comme je ne voudrais pour rien au monde qu'il sortît de moi un discours où il se trouva le moindre mot qui fût désapprouvé de l'Église, aussi aimais-je mieux le supprimer que de le faire paraître estropié, mon ouvrage. Si le mouvement de la Terre est faux, tous les mouvements de ma philosophie le sont aussi, car ils se démontrent par eux, évidemment. Alors Descartes renonce, comme vous voyez, pourtant à brûler son manuscrit, il ne veut pas le brûler. Il espère quand même que, il faut toujours espérer, d'ailleurs quand l'Église condamne des choses, il faut toujours espérer que plus tard, les idées s'amélioreront, que l'évolution changera les choses peut-être. Alors, le traité du monde sera publié finalement en 1677, 27 ans après sa mort. Mais Descartes est sollicité de toutes parts. Me faire connaître quelques-unes de ses découvertes, tout au moins celles pour lesquelles il ne risque pas d'être inquiété, là. Alors il se décide à publier sa physique, il achève la dryoptrique, c'est-à-dire un ouvrage sur la théorie de la réfraction, vous savez, de la lumière. Il écrit deux essais, l'un sur les météores, où il fait la théorie des parhélies ou faux soleils, là, puis celle de l'arc-en-ciel. C'est incroyable tout ce qu'il sait. Puis il fait un ouvrage sur la géométrie. Il y publie avec une préface sous le titre « Discours de la méthode » pour bien conduire sa raison. « Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la dioptrique et les météores et la géométrie qui sont des essais de cette méthode. » Alors l'ouvrage paraît en 1637 à l'aide. Et pour Descartes, le discours de la méthode, c'était comme un moyen de tâter l'opinion publique. Et c'est publié sous le voile de l'anonymat, mais ça prend pas de temps qu'on sait que c'est lui, c'est écrit en français, bien qu'abordant des manières qu'on ne traite à cette époque-là qu'en latin, parce qu'il savait très bien le latin. Il écrit des ouvrages en latin, d'ailleurs. Alors, le discours de la méthode doit trouver des lecteurs au-delà du cercle, comme il dit, des doctes, c'est-à-dire des gens vertis, des savants, quoi, hein? Il écrit ça, c'est curieux. J'ai voulu que les femmes m'aiment et puissent entendre quelque chose, et cependant que les plus subtils puissent aussi, trouvent aussi assez de matière, pour occuper leur attention. Alors, la philosophie dont il a tracé les grandes lignes, il peut maintenant la développer. Par prudence, il écrira en latin. Il va la dédier à messieurs les doyens et docteurs de la sacrée faculté de théologie de Paris. Avant de donner son manuscrit à l'imprimeur, il l'enverra d'ailleurs à son grand ami le père Mersenne pour qu'il le fasse lire par les plus célèbres philosophes de l'époque, le Cassandi, Arnaud, Hobbes. Il répondra à leurs objections, qu'il publie ainsi que ses réponses. Et aussi, ce n'est qu'en 1641 que paraissent les Méditationes, etc., etc. C'est paru sur les Méditations métaphysiques, un livre bleu des textes choisis aux presses universitaires de France. Un livre assez considérable, mais ce qui est intéressant, c'est l'index analytique à la fin. Alors, on peut voir ce qu'il parle, mettons, de la création du monde, ou de Dieu, l'idée de Dieu, la définition, etc. Et alors, on peut trouver dans ce livre Descartes, Méditation métaphysique, texte choisi aux presses universitaires de France. Ça se vendait à l'époque une dizaine de dollars quand j'ai acheté ça aux éditions Pauline. Ça doit être un peu plus cher maintenant. Mais ça vaut la peine, et on trouve des choses assez étonnantes, comme dans les commentaires sur le discours de la méthode dont je vous ai parlé. Dans les commentaires, on dit bien à la fin, il tient l'Église pour infaillible, comme d'ailleurs il ne doute guère de ses raisons, et qu'une vérité ne peut pas être contraire à l'autre. Il est convaincu que l'accord finira par se faire. Hein. Comme vous voyez, il est attaché à l'Église. Alors les méditations... c'est le duc de Luynes qui l'y traduit en français. Et un ami de Descartes traduit les objections puis les réponses, puis Descartes reçoit les traductions qui ne paraissent à Paris qu'en 1647, 3 ans avant sa mort. Donc, les méditations sont au nombre de 6. Et c'est intéressant parce qu'elles ont pour titre « Des choses qu'on peut révoquer en doute ». Deuxièmement, « De la nature de l'esprit humain et qu'il est plus aisé de connaître que le corps ». L'âme, en somme. De Dieu qu'il existe, du vrai et du faux. Cinquièmement, de l'essence des choses matérielles et de recherche de Dieu qu'il existe. Puis sixièmement, de l'existence des choses matérielles et de la réelle distinction qu'il est entre l'âme et le corps de l'homme. Alors ces méditations contiennent tous les fondements de ma physique, c'est ce qu'il écrit au père Mersenne. Mais il ne faut pas le dire, s'il vous plaît, car ceux qui favorisent Aristote ferait peut-être plus de difficultés de les approuver. Et j'espère que ceux qui les liront, ben, s'accoutumeront insensiblement à mes principes et qu'ils en reconnaîtront la vérité avant que de s'apercevoir qu'ils détruisent ceux d'Aristote. Il veut pas vraiment être condamné. Il veut vraiment trouver la vérité vraie. Et en effet, les représentants d'Aristote, de l'aristotélisme, partent en guerre contre lui. Les jésuites s'y mettent, ses anciens maîtres, hein. Mène une violente campagne contre lui, une campagne qui avait commencé dès 1637. Il y a le père Bourdin, qui fait aux méditations des objections haineuses. Alors ça lui attire de Descartes une réponse d'une aigreur plutôt méprisante. Descartes, cependant, alors il poursuit ses efforts pour la diffusion de ses idées. Il veut les faire pénétrer dans les cercles les plus en plus larges. Et ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Ce qui est en cause, comme le dit Léon Brunswick, c'est bien le sort du grand événement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la découverte du sens de la vérité. Le mot d'une nouvelle alliance entre la science et la religion. Le monde, l'homme, Dieu, éclairé enfin de la lumière de la raison. Alors Descartes expose sa doctrine en tel ordre qu'elle puisse être aisément enseignée, dit-il. Et c'est sous forme d'articles de manuels qu'en 1644 paraissent les Principia Philosophiae, les principes de la philosophie, si vous voulez, d'un exposé de sa physique en trois parties. Les principes des choses matérielles, du monde vivant, de la terre. Et ces trois parties sont précédées d'une sorte de résumé des méditations, là, dont je vous ai parlé, sous le titre « Les principes de la connaissance humaine ». C'est très important des ouvrages de cette profondeur. Hein. Et c'est moins difficile à lire souvent, du moins certains passages. Quand c'est trop difficile, bon, on saute par-dessus, si vous voulez. Hein. Si en France, Descartes a des ennemis, sa philosophie n'est pas mieux accueillie en Hollande, protestante, hein, à l'Académie d'Utrecht, c'est un pays protestant. La lutte est violente entre son disciple Regius et le théologien Gilbert Voetius, qui n'hésite pas à s'en prendre à la personne même de Descartes, dont la conduite, d'après lui, serait rien moins que louable. Le Sénat d'Utrecht, toujours en Hollande, pour éviter des incidents violents, intervient d'ailleurs, suspend les cours du disciple de Descartes, Regius. Puis c'est l'Université de Leyde qui accuse Descartes de blasphème. L'ambassadeur de France, M. La Tuilerie, est obligé d'intervenir et de défendre Descartes. Là, la Hollande, où il comptait travailler en paix, n'est plus pour lui le séjour enchanteur qu'il a déjà dépeint à Balzac. Et pour retrouver un calme nécessaire à sa pensée, Descartes change plusieurs fois de résidence, habitant La Haye et différents autres endroits. Il interrompt trois fois son séjour pour venir en France. Il a beaucoup de difficultés. En 1644, au moment où il va publier les principes, il espère alors que le père Meland, M-E-S-L-A-N-D, va enseigner sa métaphysique à Paris. Mais qu'est-ce qui arrive au bon père Meland? Il est relégué au Canada, oui, ici, à cause de la trop grande relation qu'il avait avec M. Descartes. Ça nous a fait hériter d'un jésuite qui était près de Descartes. Du moins, je crois qu'il était jésuite. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé sur ce père Meland, M-E-S-L-A-N-D. En 1647, il vient sur la promesse d'une pension qui ne touchera d'ailleurs jamais. Un peu d'argent, quoi. Et ceux qui l'ont fait venir semblent ne vouloir, dit-il, connaître autre chose de moi que mon visage, en sorte que j'ai sujet de croire qu'ils me voulaient seulement avoir en France comme un éléphant ou une panthère, à cause de la rareté et non point pour être utile à quelque chose. Il a de l'humour. Et c'est au cours de ce séjour qu'il rencontre le jeune Pascal. Oui, Blaise Pascal, et qu'il lui aurait donné l'idée de faire des expériences sur le vide, en utilisant le mercure. Enfin, en 1648, il arrive en pleine fronde, hein, une espèce de guerre civile, souvent d'Autriche puis Mazarin, là. Et son séjour est bref, Paris ne lui convient pas. Alors, l'année précédente, il a revu la traduction française des principes, là. Il a écrit une lettre au traducteur, une lettre qui présente le plan d'ensemble de sa philosophie. Puis, déjà depuis la publication des principes, c'est surtout vers les questions morales qu'il se sent attiré. Et les lettres qu'il échange avec la princesse Élisabeth, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fille du Palatin, là, qu'il a connue lors de son premier séjour en Hollande, lui sont l'occasion d'exposer ses idées, puis elles aboutissent au Traité des passions. Des lettres fantastiques, hein? Traité des passions, qu'il publie en 1649. Hélas, ben, c'est la reine Christine de Suède, la fameuse Christine de Suède, qui aimait à s'entourer des hommes les plus célèbres. Elle fait inviter à venir à Stockholm. C'est pas une ville facile que Stockholm, hein? C'est comme un ensemble d'îles dans la mer. Et Descartes hésite à aller vivre dans le pays des ours ou des ours, et entre les rochers et les glaces, écrit-il. Cependant, l'idée que l'influence de la reine Christine de Suède sera utile à son œuvre, le décide à partir, puis il arrive à Stockholm en octobre 1649. Et l'accueil de la reine est digne de l'homme qu'elle reçoit. Mais là, bientôt, René Descartes se sent isolé. Il dit « Je ne suis pas ici dans mon élément. Il me semble que les pensées des hommes gèlent ici pendant l'hiver aussi bien que les eaux. J'espère que c'est pas notre cas. » Alors, on a laissé René Descartes en Suède, là, et il pense à y aller, il dit « Je ne suis pas ici dans mon élément, il me semble que les pensées des hommes, les Suédois, les pensées des hommes gèlent ici pendant l'hiver aussi bien que les eaux. » E-A-U-X. Alors, Descartes qu'on nous montre, vous en avez parlé tout à l'heure, comme aimant travailler au lit, tard, dans la matinée. Mais il doit voir la reine Christine qui, elle est une reine décidée. Je ne sais pas si vous avez déjà lu sa vie. Il faudrait que je vous la raconte un jour. Il faut qu'il la voie plusieurs fois par semaine, le matin à 5 heures. Alors, il assiste aux fêtes de la cour. Ça l'ennuie un peu. Et pour l'une d'elles, il écrit d'ailleurs une comédie, puis les paroles d'un ballet, la naissance de la paix, puis cette existence qui est si différente de celle qu'il a menée, puis la rigueur là, du temps qui fait, c'est épouvantable. Ça convient pas à sa santé, puis il est atteint finalement d'une congestion pulmonaire. Il meurt rapidement le 11 février 1650, à la veille de ses 54 ans. Ce sera, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 350e anniversaire de sa mort, l'an prochain, le 11 février, dans un an. Descartes est enterré à Stockholm, dans le cimetière réservé aux étrangers, en présence seulement de quelques personnes qui appartiennent à l'ambassade de France. C'est incroyable, hein? Mais ses restes sont rapportés en France en 1667, dont 17 ans plus tard. Ils sont inhumés en grande pompe à l'église Sainte-Geneviève du Mont. En 1799, donc plus d'un siècle plus tard, une nouvelle exhumation est ordonnée et le corps déposé au musée des monuments français avec ceux des hommes qui sont la gloire de la France. Mais à peine 20 ans plus tard, en 1819, les restes de Descartes sont transportés, cette fois-ci, plusieurs d'entre vous doivent le savoir, sont transportés à l'église Saint-Germain-des-Prés, dans la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, quand vous allez à Saint-Germain-des-Prés, allez à la chapelle du Sacré-Cœur, vous verrez la tombe de René Descartes. L'inscription, d'ailleurs, qui figure sur la pierre tombale, rappelle que Descartes, le premier depuis la Renaissance des belles-lettres en Europe, a revendiqué et assuré les droits de la raison humaine. D'après lui, l'homme doit se rendre maître de lui-même et de la nature, mais afin d'établir le règne de la raison. Et il ajoute, c'est très beau, que l'objet le plus élevé de la raison est la connaissance de Dieu. La méditation et l'amour de ce souverain être, et l'acquiescement à sa sainte volonté nous font jouir, dit-il, du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. Où est-ce qu'on trouve ça? Dans ses méditations. Page 80. Je le relis, c'est trop beau. Car comme la foi nous apprend que la souveraine félicité de l'autre vie ne consiste que dans cette contemplation de la majesté divine, ainsi expérimenterons-nous, dès maintenant, qu'une semblable méditation, quoique incomparablement moins parfaite, nous fait jouir du plus grand contentement que nous soyons capables de ressentir en cette vie. C'est pas tout le monde qui dit ces choses-là. Descartes, je vous l'ai dit, a professé la foi chrétienne. Il l'a pratiqué fidèlement, même en Hollande protestante. Il allait à la messe tous les jours. C'est un fait à quoi bien des rationalistes contemporains voudraient changer quelque chose, mais qu'ils essaient, on a les preuves du contraire. Présenter l'auteur des méditations comme un libre penseur, moi je trouve ça absolument ridicule. Que tout ça ce soit des simagrées pour être prudent face à la religion, pour pas se faire condamner. C'est pas seulement se mettre en contradiction avec les plus clairs témoignages, mais c'est aussi rabaisser, me semble injurieusement, un grand homme. C'est lui dénier deux des vertus qui honorent le plus l'être humain, c'est le courage puis la franchise, et je crois que Descartes les avait. Il faut que nos gens là, qui veulent tout laïciser puis tout ramener au matériel, en prennent leur parti. Descartes ne leur appartient pas. Non. Je m'excuse de faire un peu d'apologétique, mais je suis fatigué des fois. Je crois devoir vous lire, en terminant, un texte de Descartes. Je l'ai retrouvé dans cet ouvrage admirable. C'est le deuxième tome immense de l'histoire de la pensée de Jacques Chevalier. Et puis, à la page 159, je lis ceci. Or, j'estime que tous ceux à qui Dieu a donné l'usage de cette raison sont obligés de l'employer principalement pour tâcher à le connaître et à se connaître eux-mêmes. C'est par là que j'ai tâché de commencer mes études. Et je vous dirai que je n'eusse su trouver les fondements de la physique si je ne les eusse cherchés par cette voie. Mais c'est la matière que j'ai le plus étudiée de toutes et en laquelle, grâce à Dieu, je me suis aucunement satisfait. Au moins pensais-je avoir trouvé comment on peut démontrer les vérités métaphysiques d'une façon qui est plus évidente que les démonstrations de géométrie. Je dis ceci selon mon jugement, car je ne sais pas si je le pourrai persuader aux autres. Mais je ne laisserai pas de toucher en ma physique plusieurs questions métaphysiques, et particulièrement celle-ci, écoutez bien, que les vérités mathématiques, lesquelles vous nommez éternelles, ont été établies de Dieu et en dépendent entièrement, aussi bien que tout le reste des créatures. C'est en effet parler de Dieu comme d'un Jupiter ou Saturne et l'assujettir au Styx, le fleuve, là, et aux destinées, que de dire que ces vérités sont indépendantes de lui. Voyons, ne craignez point, je vous prie, d'assurer et de publier partout que c'est Dieu qui a établi ses lois en la nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Or, il n'y en a aucune en particulier que nous ne puissions comprendre si notre esprit se porte à la considérer. Et elles sont toutes, mentibus nostris ingenti, ainsi qu'un roi imprimerait ses lois dans les cœurs de tous ses sujets. S'il en avait aussi bien le pouvoir. Au contraire, nous ne pouvons comprendre la grandeur de Dieu, encore que nous la connaissons. Mais cela même que nous la jugeons incompréhensible, nous la fait estimer davantage. Oui, on peut, sans comprendre, estimer davantage la grandeur de Dieu. Il n'y aurait pas injustice, me semble, à rendre à Descartes. Responsables de doctrines qui ont été désavouées. Il y a chez lui peut-être des insuffisances, des lacunes, des erreurs, oui, je pourrais le dire, moi. Mais ses défauts, pour graves qu'ils soient, ne doivent pas nous masquer les parties solides de son œuvre, qui subsistent encore aujourd'hui, subsisteront toujours. N'oublions pas que René Descartes a été l'un des plus fiers champions des grandes idées qui soutiennent l'humanité au-dessus des platitudes du matérialisme. En même temps, que l'un des hommes qui ont porté le plus loin dans le monde le rayonnement du génie lumineux et mesuré que l'homme peut avoir grâce à Dieu. C'est vraiment un grand, grand personnage, plus grand qu'on pourrait le dire, mais qui a été admiré par Jacques Chevalier dans son Histoire de la pensée. Je trouve que c'est très beau, son long texte. Et il y a tellement de choses admirables à lire à son sujet que ça vaut la peine de lui rendre hommage.